tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, nous avons déjà voyagé ensemble. Et ceux qui sont fidèles à l'émission se souviennent peut-être que nous avons fait l'ascension du mont Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, l'année dernière. Aujourd'hui, nous allons voyager en Afrique de l'Ouest avec Michael, qui est originaire du Ghana. Michael, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu là pour nous parler. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle région vous êtes ? Et nous dire dans, à quel endroit, d'où vous êtes originaire, dans ce beau pays du Ghana, qui est un des pays de la côte du golfe de Guinée.
En fait, moi, j'ai deux ethnies. Quand on dit ethnie, c'est côté paternel et côté maternel. Et le côté paternel, c'est la région qui est vachement, qui est proche du Togo, qui est la région Volta. Et à côté maternel, c'est on dit on parle à Chanty et à Cannes, qui est Eastern Region, la région East, Est, qui est pas loin de Accra, qui est un peu aussi, voilà. Et donc moi je suis d'où ethnie, je parle Ewe et je parle Ashanti. Donc,
Alors pour nos auditeurs, alors je précise que la région où on parle Ewe, dont parle Michael, c'est une région qui a été divisée en deux par la colonisation, puisque il y a eu la création du Togo qui se trouve à l'est du Ghana, et puis dans le Ghana il y a une partie de l'aire où l'on parle Ewe, des populations Ewe, qui est restée au Ghana. Et puis, un petit peu au nord-ouest de cette région, il y a la région Ashanti, à Cannes, dont Michael vient de parler, et qui a été une grande région, puisque ça a été le siège d'un royaume extrêmement puissant. Michael, donc vous appartenez à deux des grandes ethnies du Ghana. Et vous êtes originaire, mais alors votre famille était fixée à quel endroit ? Et
ma famille, ils sont fixés dans où ils sont originaires. Donc, ma maman, il est chez elle, à Douajiri, Insawam, qui est pas loin d'Accra. Et mon papa, il était exilé chez lui, Kwando. Kwando, c'est une petite ville. Non, Kwando, c'était Ewe. Ah oui. Voilà, et oui, c'est deuxième capitale de la région Volta. Et donc, il était chez lui, il était chef de tribu pendant un peu de temps, quoi. Mais là, c'est malheureusement, récemment, il est parti. Il est décédé le 1er septembre 2014.
Et vous avez été élevé alors chez votre maman ou oui. Dans la région, dans la région oui. Où résidait votre maman.
Oui. En fait, moi, j'étais élevé par grand-mère paternelle. Oui. Voilà. Parce que nous, la naissance, c'est comme ici, c'est pas pareil. Et comment ils s'élèvent et des enfants. Ici, c'est pas pareil comme en Afrique. Et quand on est venu au monde, pour nous confier grands-parents, pour nous confier une tante et tout ça, pour nous lever.
Les enfants peuvent être élevés par d'autres membres de la famille.
Exactement. Mais ça dépend. Et puis, moi, j'étais élevé par grand-mère paternelle jusqu'à un certain âge qu'ils ne peuvent plus continuer. Mais, exercer les conditions de ma vie. Donc, je suis obligé de partir à côté de mon père, qui était fonctionnaire à Kumasi.
Voilà. C'est la capitale du pays Ashanti. Alors.
Voilà.
Pas tout à fait dans le centre du Ghana, mais presque.
Ghana, voilà, c'est le deuxième capitale du Ghana. Donc là, il était fonctionnaire, assistant social dans l'hôpital, grand hôpital, et au Confonache Hôpital. Si vous connaissez au Confonache Hôpital.
Je connais un peu Kumasi, mais je ne connais pas l'hôpital.
C'est le plus grand hôpital, qu'il y a plein de... des médecins bien renommés qui soignent là-bas, qui soignent des malades très, très, très sévères, quoi.
C'est un hôpital bien équipé, à la fois techniquement et en médecins. Mais comment vous définiriez, Michael, le Ghana aujourd'hui dans le paysage ouest-africain? Est-ce que c'est un pays qui est riche? C'est un pays moyen, puisque c'est un pays qui a la superficie à peu près la moitié de la France et qui a pas loin de 30 millions d'habitants maintenant. Ça a beaucoup augmenté, parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était autour de 20 millions d'habitants.
Oui, ça a augmenté parce que c'est dû au... comment ça s'appelle les réfugiés de tous les sens des autres pays, comme Afrique du Sud à l'époque, à l'apartheid, il y a eu beaucoup de réfugiés qui viennent s'installer au Ghana. Et puis récemment, ce qui se passe au Côte d'Ivoire aussi. Et c'est tous venus au Ghana pour s'installer. Donc, la plupart, ils ne sont plus retournés chez eux, ils sont restés. Donc, la population a grandi. Moi, quand je suis parti au Ghana en 2008, j'étais étonné.
Ah oui, vous êtes revenu au Ghana à ce moment-là, en 2008.
2008.
Vous avez trouvé des gros changements par rapport...
Oui,
quelle année êtes-vous venu en Europe?
Je suis arrivé en Europe, c'était 1985. 85, et le pays...
85 ou 95?
85.
Ah, vous êtes venu tout jeune alors.
Oui, quand je suis venu en France, j'avais... entre 27 et 28.
Oui, d'accord.
Et maintenant, j'ai presque 60 ans. Ah, oui. Donc, ça fait un moment que je suis en France. Allez, la France et le Ghana étaient bien. Il y avait moins de monde et ces choses se passaient bien. Mais c'est qu'au niveau politique, c'était pas jusqu'à les années 80, les choses changeaient.
Est-ce que avant d'aborder les aspects politiques, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs un peu quelles sont les richesses du Ghana? Sur quoi repose son économie?
Le Ghana, son économie repose sur plein de... On a plein de richesses.
Il y a
pas uniquement l'aluminium, on est diamant, oui. De l'or. Et je peux vous dire qu'on est deuxième mondial de l'or.
C'est le premier pays africain producteur d'or à l'heure actuelle.
Oui, mais en qualité. Hein. Ouais. Mais qualité, mais quoi, Afrique du Sud, ils avaient des quantités, mm-hmm. mais pas moins de qualité. Mais nous, on avait plus de qualité. On a du diamant, des bauxites, on avait des bois, on avait plein de ressources.
Et puis, il y a le cacao quand même.
Oui, cacao, le café. Ouais.
Et puis alors dans le domaine minier, vous avez quand même du pétrole maintenant.
Ah oui, pétrole, ils ont découvert pétrole il n'y a pas longtemps. Et là, le pays commence à être avancé au niveau économique, très très agréable, quoi. Donc la plupart des gagnants, ils ne vont plus partir chez eux, ils ne vont plus partir au Ghana, ils restent. Ceux qui sont venus, et moi, mais certains gagnants que je connais en France, et beaucoup qui sont retournés, parce qu'ils trouvent que c'est mieux chez eux, parce que les choses commencent à aller mieux, l'économie commence à être beaucoup plus agréable.
C'est un des pays africains qui ont un taux de croissance que la France pourrait envier, hein, parce qu'on atteint presque 4%, une croissance à presque 4% à l'heure actuelle.
Oui.
Bon, c'est, comme on l'a dit, un des principaux producteurs d'or. Hein, ils ont exporté presque 5 milliards, pour 5 milliards de dollars d'or il y a 2 ans. Et donc, ça reste le premier producteur de cacao. Premier producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire. Et puis, comme vous le disiez, il y a la bauxite qui produit de l'aluminium avec la grande usine d'Akosombo.
Il y a du bois, bois exotique, bois à fabrication du, des meubles, des charpentes.
Je me souviens, il y a maintenant plus de 40 ans, quand j'allais par la route à Koumassi, je voyais les grumiers qui passaient devant moi, là, avec leur très gros camion, avec d'énormes grumes de bois exotiques, et ça me faisait peur.
Et là, et maintenant, là, c'est que de ne pas perdre toutes ces richesses-là, ils ont le temps de repousser, reconstruire d'eau, replanter d'autres bois, et surtout bimbol. Comment ça s'appelle là, on n'a pas beaucoup de baobab au Ghana, mais on a des bois très riches dans les matières, fabrication de meubles,
les fenêtres aussi, l'huisserie.
Et puis,
il y a la pêche aussi hein, sur la côte.
Oui, il y a la pêche, et il y a du sel aussi, et puis il y a des cannes à sucre. Les Midoriens ont dit que ce n'est pas uniquement de. Les îles ou comme Guadeloupe ou La Réunion qui on peut trouver les cannes à sucre. Cannes à sucre qu'il n'y a pas tout, surtout Ghana. Moi, quand j'étais gamin, je mange pas même pas les vrais sucres fabriqués, je mange que les cannes à sucre.
Donc, il n'y en a pas tout. La friandise des enfants.
On mangeait qu'on avait la bouche tout déchirée parce qu'il faut
tirer l'écorce qui est dure. Hein. Oui. Et puis alors, c'est un pays où beaucoup de gens peuvent se nourrir correctement. Voilà. C'est un pays qui est riche du point de vue agricole, puisque c'est un pays qui ne connaît pas, sauf peut-être un peu dans le nord, les sécheresses.
Non, on est dans des zones très. On n'a jamais eu. Moi, depuis que ce Ghana, je suis né, que je suis ici, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu la sécheresse, merci Dieu. Pour que ça continue, on est dans une condition où il y a la pluie, toujours il y a la pluie, il y a des agriculteurs très 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 puissants, tout le monde, même individuels, que ce soit l'État, que ce soit individuel, les gens ils sont là au champ de maïs.
Leur jardin avec le maïs, le manioc.
Voilà, donc nous on est, surtout nos premières bases, nourriture, c'est pas uniquement du riz, on est des maniocs, des gnames, des cassaves,
déjà une nourriture d'Afrique humide un peu.
Voilà. Donc tout ça, on n'est pas. C'est dans ces côtés-là, on n'est pas. Faut pas s'inquiéter, on ne s'inquiète pas d'on est à côté nourriture. Quoi.
Vous pouvez affronter la croissance démographique qui est quand même encore assez forte. Oui. Mais alors, tout à l'heure, on a parlé d'Akosombo, on a parlé, parce qu'il faut vous dire, chers auditeurs, que la partie orientale du Ghana, à proximité du Togo, donc, est traversée du sud au nord par un énorme lac de barrage, aujourd'hui, qui est un des plus grands lacs de barrage d'Afrique, et qui a été déterminé par un barrage établi sur la Volta dans les années 60, début des années 70. Et ce barrage, il est destiné à alimenter une énorme usine électrique et qui permet de produire de l'aluminium à partir de la bauxite ghanéenne. Alors ce lac d'Akosombo, vous le connaissez bien, Michael, parce que vous avez vécu enfant à proximité et il vous a laissé des souvenirs impérissables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, mais c'était fleuve qui était irlandais. Presque plupart de régions Volta, parce qu'il fallait que le pays qu'on a eu indépendance, il fallait qu'on ait nos propres puissances énergiques, l'électricité. Donc, ils ont construit ces barrages. Et à Kosombo, qui n'est pas loin. C'est Volta, la région Volta. Et ça est.
En fait, on a barré la Volta, puisque la Volta prend sa source dans ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso, qui s'appelait du temps, à l'époque de la colonie, la Haute Volta.
Ah oui,
la Haute Volta. Et donc, on a barré ce fleuve, tout à fait en aval, près de son arrivée dans l'Atlantique. et voilà, pour obtenir ce grand lac réservoir et pour construire ce barrage hydroélectrique.
Et ces barrages, au moment où ils sont construits, et pouvoir y aller de l'autre côté de région, ils ont construit un grand pont qui s'appelle Akosombo Bridge. C'est le pont Akosombo qui permet, avant, les gens traversent en bateau pour aller de l'autre côté de la région Volta Region. La région Volta ou la région comment ça s'appelle la région Est.
Oui, oui, oui.
Il y a des bateaux maintenant, depuis qu'ils ont fait ces barrages, ils ont construit un pont.
Ah oui. Là, mais le pont, il est construit en aval du barrage.
Oui.
Parce que je me souviens que, moi, quand j'étais là-bas, il y a plus de 40 ans, les bouches de la Volta, on les traversait avec un bac.
Oui.
Quand on voulait aller au Togo, on passait, il y avait un bac, il n'y avait pas de pont.
Oui, il n'y avait pas de pont, mais ils ont construit ces ponts-là, c'est des années 70, c'est juste après le barrage.
Oui.
Construit le barrage pour que on puisse circuler librement, facilement. C'est pour ça qu'ils ont construit ce pont. Et ce pont, c'est un pont qui, dès que souvent on voyait que la fleuve, deux fois elle monte. Mmh. Donc ils ont construit le pont, ils ont construit, c'était un pont très résistant qui bouge. Une fois la fleuve monte.
Elle bouge avec le fleuve.
Le pont aussi.
Le pont se soulève avec la crue.
C'est donc, du coup, ça nous a aidé. Du coup, ils n'ont pas eu une idée pour améliorer au niveau le transport de ce passage-là. Pour aller entre Kumasi et Accra et Volta Region. Et ce pont, ces barrages, vachement, ça causait énormément de dégâts, malgré tout, pour améliorer le pays.
Parce que ça a inondé des villages.
Ça a inondé beaucoup de villages. Inondé beaucoup de villages, ça a dégagé, ça a fait un grand dégât énorme. Maintenant, tous ces habitants...
Presque toutes les fois qu'on construit des réservoirs comme ça... Il y a des villages qui sont malheureusement perdus et il faut dédommager les habitants, les reloger ailleurs, etc.
Mais du coup, ça, c'est l'État a fait nécessaire à aider ceux qui sont survécus pour améliorer leur système de vie.
Oui, pour qu'ils soient installés ailleurs.
Voilà, maintenant, les barrages, et c'est à côté des barrages, maintenant, on a des industriels. Il y a des industriels qui sont installés là-bas, qui font des... Vous savez, il y a des industriels d'où comment ça s'appelle là hein? Les Chinois, ils sont installés pour fabriquer le...
Juste à côté d'Accra, là.
Ils sont usine énorme industrielle qui fabriquait les tissus.
Ah oui.
Voilà, tissus, c'est... Tissage, oui. Le tissage, ça, c'est fait entre des Chinois et des Ghanéens qui sont investis dans ce domaine de tissu, parce que nous, on se sert que ça, on n'est pas habitué des costumes européens, donc,
des grands consommateurs de tissus, de coton.
Tissus, oui. Coton, des...
Oui, mais ça, c'est les femmes, elles exagèrent, là. Elles sont toujours en train d'acheter des nouveaux tissus,
aussi.
Là, et puis
les hommes,
bien sûr,
j'avais ça, mais jusqu'à maintenant, j'ai deux boubous ici.
Des belles chemises bariolées, là, voilà.
Voilà, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Michael, maintenant, dans quelles circonstances vous êtes venu en France? Qu'est-ce qui vous a amené en France?
Oui.
Est-ce que vous avez dit, moi je vais en France, ou bien vous êtes arrivé en Europe, et puis par hasard vous êtes arrivé en France?
Non, mais je suis venu en France, c'est que... on peut dire que ça ne va pas être un problème économique, c'est pas un problème politique aussi. Un peu problème politique, parce que où j'avais travaillé avant... On a eu un problème d'augmentation comme ça, pas ici. Nous, on n'a pas de syndicats, mais c'est les travailleurs qui réagissent contre le patron, ouais, tout ça.
Spontanément.
Voilà, comprenez-moi. Mais quand on n'est pas encore évolué au niveau syndicat, tout ça, pour nous porter, tout ça, donc nous, les travailleurs qui réagissent. Et du coup, bon, comme les polices et police nationale et puis l'armée nationale au Ghana, ils ne sont pas habitués de ça. Nous, ils ont eu un scandale, ces blocages comme le CRS, tout ça, voilà.
Oui, il y avait un mouvement d'ouvriers et qui a été réprimé sévèrement par la police, par l'armée, voilà. Et c'est à la suite de ça que vous avez été amené à quitter le pays.
Donc nous, avant, on était un peu rebelles, pour dire, nous, on est insuste, qu'on n'acceptait pas. Donc nous, on a fait des ravages, on a fait scandale. Donc du coup, ça devient une sorte de, à la recherche, on cherche pour nous interroger, pour nous faire, pour juger tout ça, mais nous on s'est barré.
Oui. Du coup, on s'est barré. Poursuivi, voilà, parce qu'à cause de votre action dans ce mouvement.
À l'époque, le Ghana n'était pas. Les corruptions ont commencé à grimper petit à petit.
Et dans quel secteur que vous travaillez à ce moment-là?
Je savais, on peut dire que c'est Antidote et Valco. C'est Valco, c'était les boîtes de. On ne peut pas trop parler parce que c'était un organisme américain qui fabrique tout ce qui est une grosse usine de fabrication de métal. Des zinc, de tout ce qui est cuivre, tout ça.
D'accord.
C'est chaud, d'accord. Hein, on boule des fonderies. Mais énorme, hein, il y a beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de monde. C'est boulot très, 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 très pénible. Ouais. Et bon, nous, on est. Moi, je finis les études, je cherche boulot, tout ça. Donc, je voulais être steward, et, tu sais, bateau, tout ça. Donc, je tombais sur les témas.
C'était. Ah, oui, ça, vous étiez à Téma, voilà, oui, qui est la grande ville industrielle qui est juste avant Accra. Là.
Donc, nous, on s'est barré. Et puis, moi, je me suis retrouvé au Nigeria. Et puis, au Nigeria, je suis retourné au Ghana. Après, ça m'a plu plus. Je suis parti, je suis venu en France.
Donc, vous étiez jeune et donc vous êtes parti à l'aventure.
Donc, je suis venu en France et ça m'a plu parce que je trouve que la France est un pays, il a un langage très, très riche que moi, je vais bien comprendre parce que quand j'ai fait des études, mon prof de français me parlait français. Il me dit, mais c'est quoi cette langue-là? Les langues, il faut différencier de le tu, il faut tutoyer, il faut vous voir. Mais c'est quoi cette langue? Elle me dit, ah. Et puis, toujours me punir. Quand le prof de français honte, moi je me casse, je fais autre chose. Elle me punit, moi je me souviens, elle m'a puni. Je suis allé chez lui pour nettoyer. Je me dis, tu vois, prends cette langue-là. Et puis du coup, et quand il y a eu ces manifestations au Ghana, qu'au problème est agité, je suis parti. Du coup, je me suis dit, il faut la France. Avant, je vais aller au Suède, je vais aller en Angleterre, tout
dans,
ça.
Dans d'autres pays européens pour essayer.
Voilà, c'est pour voir comment ça se passe entre Européens, Afrique, comment ça se passe dans leur vie. Et je suis venu en France et du coup, je me dis, c'est ce langue-là, il faut que je l'apprends bien parce que alentour du Ghana, il n'y a que des francophones.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas d'autres langues. Quand je suis ici, je vais aller en Angleterre, je viens au Ghana, c'est toujours pareil. Je parle Ghana, je parle anglais. Je vais au Togo, je ne veux pas même pas communiquer avec Togolais, ni Bénin, ni. Donc, je veux prendre le français. C'est pour ça que je suis arrivé, en Angoulême. Angoulême, on est plusieurs gagnants. On était envoyés à Poitiers, pour l'université, pour apprendre la langue française. Ah ouais. Parce qu'il y a on était pas mal de gagnants qui étaient en France. Et la plupart, ils sont venus pour juste améliorer leurs études au niveau de la France, des étudiants.
D'accord.
Il y en a qui, quand ils sont finis, ils vont plus repartir, ils voulaient rester pour apprendre la langue. Donc, moi, je suis mélangé avec eux. C'est là qu'on a pris la langue française plus et en profondeur, quoi. C'est là que j'ai vu que cette langue, c'est bien, c'est ça me plaît. Ça me plaît énormément.
Et alors d'Angoulême et de Poitiers.
Oui.
Vous êtes d'Angoulême et de Poitiers. Vous êtes descendu dans le Périgord.
Oui, pas les gars, mais bon, je trouvais sur tonnerre à Angoulême. Bon, comme je fais la musique, je faisais la musique aussi.
Ah d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que, de quel instrument jouez-vous?
Je faisais la musique. J'étais batteur.
Oui.
Je suis batteur.
Et encore maintenant? Encore maintenant?
Oui, maintenant.
D'accord.
Et du coup, bon. On joue la musique et on a eu un producteur qui voulait nous produire nos musiques. Donc, c'est là que j'ai découvert la Dordogne.
D'accord.
Et Périgueux, on est allé à Cubjac pour faire un enregistrement.
Oui.
Et du coup, j'ai rencontré ma femme à Périgueux. Donc, je suis revenu, c'est là que je suis atterri, bim.
D'accord, donc vous avez fondé une famille, et puis voilà.
Pendant ces périodes, la musique, là.
Vous avez jeté l'ancre à Périgueux.
Là. Voilà. Et la musique, quand la musique, c'est pas mon professionnel, c'est juste un plaisir, tout
un
ça.
Plaisir, oui,
pour moi, c'est un plaisir. Mm-hmm. Je pourrais être aussi un grand musicien, mais moi, mon objectif, c'est pour trouver boulot, pour retourner au pays, pour pouvoir peut-être améliorer la langue française aux autres, parce que mon père, il a ouvert une école privée chez lui,
ah, oui.
qui embauche les Français de Togo pour apprendre des enfants en français, parce que maintenant, comme le Ghana est devenu un pays obligatoire pour apprendre la langue française.
Oui, j'ai vu que le Ghana avait adhéré à l'organisation de la francophonie, bien sûr. Donc c'est un pays dans lequel la langue française a une certaine place.
Voilà, ils ont trouvé que c'est très important qu'obligatoire des enfants, des petits, doivent apprendre le français, de connaître, parce qu'on est tous entourés. Donc là, ça n'a pas abouti. Donc je suis entré dans la musique, je fais la musique et puis voilà. Je ne suis pas retourné. Je suis retourné qu'en 2006 quand ma mère est décédée.
Vous avez dit 2006 ou 2008, non 2006.
Si, je suis allé en 2006.
2006, oui.
2006. Après, je suis retourné en 2008.
En 2008, voilà. D'accord. Donc vous gardez le contact avec le pays. Et donc quand vous rentrez au Ghana, vous parlez Ewe, vous parlez Akan, et puis vous parlez anglais.
Oui, je parlais tous les langues.
Puisque l'ancienne Côte de l'Or, le Ghana est un pays anglophone.
Voilà.
Donc Michael, qui nous parle, il a tout un éventail de langues à sa disposition.
Voilà.
Et maintenant, comme le temps passe beaucoup, nous allons être obligés de le quitter. C'est dommage, parce qu'on avait encore plein de choses
à dire,
mais on pourra peut-être faire une deuxième édition. Cette première édition, c'est surtout Michael le Ghanéen, et la prochaine édition, ce sera Michael le Français.
Voilà, merci.
Merci beaucoup, voilà. Michael.
Merci à vous aussi, on parle plein de choses la prochaine.
Entendu, okay. Merci.
Merci.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Beautiful.